Bible dans la première épître de Jean au chapitre 2. Première épître de Jean. Chapitre 2 et on va lire à partir du verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais... celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. On va le relire parce que c'est un passage important de l'enseignement de Jean qui va nous aider dans la compréhension de ce qui va suivre. N'aimez pas le monde. Il ne dit pas sortez du monde. Certains ont interprété cela et voilà, ils se refugent, ils se mettent dans des lieux de refuge en dehors du monde. Non, n'aimez pas le monde, c'est ça qu'on lit ce matin. Ni ce qui est dans le monde, parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Oui, c'est très radical, on ne peut pas l'interpréter autrement parce que c'est clair. Il y a l'amour du monde et l'amour de Dieu. Et les deux ne sont pas compatibles, vous voyez. Car, est-il dit, en plus l'apôtre explique pourquoi, il dit pas simplement, il affirme pas simplement des choses comme ça, il dit car tout ce qui est dans le monde, et il cite trois choses, on va les retenir, ces trois, convoitise de la chair, dites convoitise de la chair, ça c'est le premier, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Voilà, ces trois éléments qui sont importants pour nous ce matin, qui... Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans le monde, mais Jean a résumé ces trois choses qui sont importantes pour nous ce matin et qui dans notre vie spirituelle. Donc toutes ces choses ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe, voyez-vous, le monde passe, donc nous sommes de passage ici, il faut se le rappeler, nous sommes de passage. Parce que nous avons une destinée éternelle. Nous sommes prévus pour être. Et tous les hommes le savent. Même ceux qui disent ne pas croire en Dieu, en fait, voilà, ils se gonflent un petit peu avec cette affirmation. Mais au fond, ils savent qu'il y a une éternité et qu'il y a autre chose. Sauf qu'ils ne peuvent pas mettre souvent des mots dessus. Mais nous savons, à cause de la révélation que le Seigneur nous a donnée dans sa parole, que nous vivons éternellement. Et que nous voulons, comme le disait Philippe à juste titre, nous voulons qu'il règne. Qui est-ce qui veut que Jésus règne sur sa vie? Levez la main. Voilà, donc vous voyez, vous êtes tous volontaires ce matin. Comme l'a dit Philippe, Jésus n'impose pas son règne. Mais si nous le voulons, eh bien nous laissons Dieu... Jésus régnait dans nos vies, et c'est ce qui est là. Et si Jésus règne dans nos vies, eh bien le monde ne peut pas régner, voyez, parce que les deux ne sont pas compatibles. Le monde est antinomique avec Jésus, parce qu'ils l'ont crucifié. Le monde a crucifié Jésus, parce qu'ils n'ont pas voulu de lui et de son œuvre. Mais nous voulons de Jésus. Donc le monde passe, on convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors j'aimerais relire ce matin, comme je l'ai fait dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est nouveau, pour les autres c'est une relecture, dans Matthieu chapitre 4, ce passage qui est en parallèle avec le passage de Jean, c'est la tentation de Jésus. Chapitre 4 de Matthieu, et je lis à partir du verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et vous, Dieu a permis que Jésus soit tenté. Et c'est pas pour rien, au début de son ministère terrestre, Jésus devait passer une épreuve. La même que Adam, dans la Genèse, a passé l'épreuve de savoir s'il voulait manger de l'arbre de la vie ou manger de l'arbre de la connaissance. Adam a failli, Jésus eu la victoire, il a vaincu l'ennemi. Donc il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Voyez-vous, son humanité montre que Jésus était comme nous, il eut faim. Le tentateur s'approcha, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la ville sainte, Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges, à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Alors le diable transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et tu t'adores et tu m'adores. Hein, si tu te prosternes et tu m'adores. » Donc adorer Satan. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Prions. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu es la parole incarnée. Tu es venu, Seigneur, dans ce monde pour accomplir une œuvre, l'œuvre de rédemption de l'humanité. Et nous te bénissons pour cela. Seigneur, ouvre-nous les yeux de notre cœur afin que nous puissions vraiment connaître cette vérité qui nous libère. Au nom de Jésus. Amen. Comme le disait Philippe, c'est pour ça que j'ai dit qu'il a pris ma prédication, l'a synthétisée. C'est que Dieu règne, parce qu'il est le Créateur. Nous ne sommes que des créatures. Nous n'existerions pas si Dieu n'avait pas décidé de nous créer. Amen. Donc vous voyez, la palisse n'aurait pas dit mieux. Tout le monde comprend ça, que nous sommes nés de la poussière, que nous retournons en poussière. Mais il y a tellement d'orgueil, hein. C'est l'orgueil de la vie dont parle Jean, tellement d'orgueil en nous que nous voudrions nous faire passer pour des dieux. Ça, c'est le rêve de l'humanité, être des dieux. Être des super-héros, hein, c'est comme on disait tout petit avec les petits garçons, là, tu vois, les super-héros hein, qui grimpent le long Spider-Man et compagnie, etc. Voilà, c'est en nous, hein, c'est être des super-héros. Eh bien, nous sommes souvent des héros. Hein. Mais de ces héros, le Seigneur peut faire des héros. Hein. Rappelez-vous Gédéon. Dis-toi, il s'est adressé à Gédéon. Moi, le plus petit de toute la famille d'Israël, etc. Ben oui, toi, je t'ai choisi. Vous voyez, souvent le Seigneur choisit les choses faibles. Amen. Alors, si tu es faible, ne te fais pas de complexe, le Seigneur peut t'utiliser. Mais si tu es fort, il ne peut pas t'utiliser. Voyez-vous, c'est tout l'inverse. Dans le monde, c'est la gloire, c'est la puissance, c'est la force. Et en Jésus, dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu, il prend les choses faibles et il les élève. Amen. Alors ne cherchez pas à vous élever, restez là où vous êtes. Je ne dis pas de vous abaisser, hein. Il y a aussi une théologie d'abaissement. Non, non. Restez là où vous êtes, mais comptez sur la grâce de Dieu. Satan a une tactique, il faut la connaître. Et C.S. Lewis, il n'a pas écrit que Narnia, hein, c'est un auteur prolifique, c'était un des meilleurs théologiens du XXe siècle. Et il a écrit beaucoup de livres, il a écrit Screwtape Letters, en français c'est traduit les Screwtape Letters. Qu'est-ce qu'il y a le titre en français? Je vous invite à le lire, hein. C'est tout petit, c'est un peu... Non, c'est les tactiques du diable. Je sais. C'est peut-être les tactiques. Screwtape. Pardon ?
La tactique du diable.
Voilà. Voilà. Bon, si vous voulez le petit. C'est un petit truc de poche, hein, ça se lit en quelques heures. Il peut vous le procurer à la librairie, c'est ici ou ailleurs. C'est un petit livre qui est très intéressant parce qu'il est. Bon, avec la finesse de C.S. Lewis, il sait décrire les choses. Pour vous montrer comment Satan peut se glisser dans, dans votre quotidien sans que vous en aperceviez, et il est là pour vous induire dans l'erreur. Satan est très malin parce qu'il a observé comment l'homme se comporte et quels sont les points faibles. Vous voyez, on a toujours, même si on a une cuirasse, il y a toujours un point faible et il cherche ce point faible. Donc Satan cherchait le point faible de Jésus. Et à votre avis, où peut être, pourrait être le point faible de Jésus? Et c'est là qu'il a attaqué Jésus. Hello? C'est une bonne question, ça? Oui, mais là, je synthétise sur deux mots. Quels sont les points faibles qu'il utilise chez Jésus et chez nous? Oui, non, c'est l'identité et la mission. Ok? Satan a cherché à attaquer Jésus sur son identité. Jésus, c'était qui? Au fait, son identité. Il était fils de Dieu et... Ah, vous voyez? Et... Vous voyez, deux identités. Fils de l'homme et fils de Dieu. Ok? Vous allez voir, le secret, c'est dans ça. L'identité. Il était fils de Dieu. Enfin, il est fils de Dieu. Mais aussi fils de l'homme. Ok? Ok, la mission. Revenons à la mission. Quelle était la mission de Jésus? Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Hein, je peux arrêter ma prédication, vous aurez tout compris. Hello? Excusez-moi, il y a tout le monde qui parle en même temps? Oui, très bien. Oui, pardon? Sauver l'homme, oui. Qui dit encore des choses? Prendre nos péchés, voilà. On va rester sur le premier, hein, la croix, le péché. Donc la première mission, il y a deux identités, il y a deux missions. La première, c'est le salut. Le salut en prenant le péché, c'est important. En prenant le péché qui a été commis par Adam et par nous, chacun de nous. Hein. Donc c'est la croix. Okay. Mais il y a une deuxième mission. Ah oui, c'est Philippe qui l'a dit. Le deuxième mission, c'est de régner sur l'humanité. Ok? Ça, c'est symbolisé par la couronne. Vous l'avez là. Pourquoi elle est violette, la couronne? Toutes les couleurs ont des sens. Hein. Bon, on n'a pas Marie-France qui est artiste ici, mais... Voilà. Le violet, c'est la royauté prêtrise, hein. Roi et prêtre. Hein. C'est, vous savez, c'est les cardinaux, hein, parce que les catholiques ont, hein, ils ont trouvé. C'est pas catholique, hein, c'est dans la Bible, l'Ancien Testament, tous les prêtres portaient le violet, voilà, sur leur frange et tout ça. Donc la couleur violet, c'est la couleur, la royauté sacerdotale, ce qu'on appelle le sacerdoce, hein, c'est le violet. Il y avait cette mission-là. Okay. Et Satan a cherché à le troubler. À le troubler. On dit aussi, alors ça c'est un langage que vous entendrez si vous écoutez. Hein. Vous savez, il faut être beaucoup à l'écoute pour comprendre dans quel temps nous sommes. Okay. Or nous sommes dans un temps, je parle du monde, hein, du monde. Ce qu'on appelle le nouvel âge du Verseau. Vous avez entendu parler de ça, hein? Nouvel âge de l'ère du Verseau. C'est-à-dire qu'il y en a, quand je dis « il », c'est ceux qui gouvernent le monde, ils pensent que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, à cause de l'astrologie et tout ça, où le soleil, vous savez, il se déplace, hein, parmi les galaxies, parce qu'il tourne aussi, hein, on pensait qu'il était fixe, mais il tourne aussi, au travers, dans la galaxie. Et Il se trouve que, effectivement, scientifiquement, ça les tourne. Mais il y a une symbolisation, une signification qui est donnée. C'est qu'on est maintenant dans l'ère du Verseau. Et dans l'ère du Verseau, c'est plus le christianisme, c'est le Nouvel Âge. Et dans le Nouvel Âge, eh bien, on va adorer Satan. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. J'ai perdu le fil de ma pensée. Pardon ? Oui, pour la mission. Je reviendrai à Nouvel Âge tout à l'heure. Mais voilà, le Nouvel Âge utilise un langage qui est de modifier la conscience. C'est ça que vous allez entendre. Modifier la conscience. Hein, passer à des niveaux de conscience supérieurs. Vous savez, dans l'âme, on parle beaucoup de l'émotion, de l'intelligence, de la volonté, mais il y a aussi la conscience. La conscience, c'est cette petite voix qui, quand vous voulez voler quelque chose, dit ah, c'est peut-être pas bien ce que tu fais. Alors, ou vous obéissez à la voix, on ne vous volez pas, ou vous transgressez votre conscience, la petite voix, et bon, après vous vous êtes troublé. Hein. Vous êtes troublé. Mais si vous le faites plusieurs fois, vous n'êtes plus troublé, parce que le conscience se modifie. Et ça vous fait plus rien de voler, vous voyez. C'est ça la conscience. Hein. C'est qu'on peut l'étouffer. Okay, mais la Bible dit que nous devons avoir une bonne conscience éveillée. Et la nouvelle naissance nous amène à une nouvelle conscience. Mais quand le chrétien, petit à petit, est vieilli dans le temps, eh bien sa conscience se modifie dans le mauvais sens. Et c'est pour ça qu'il faut des réveils spirituel, ce qu'on appelle les réveils. Il faut être réveillé, vous voyez, parce que la conscience, à un moment donné, voilà, et ce qu'on appelle les vieux chrétiens, il ne faudrait pas qu'il y ait des vieux chrétiens. Il faut toujours qu'ils soient renouvelés dans leur pensée, dans leur intelligence. Amen. Voilà. Mais le Nouvel Âge utilise aussi cette modification de conscience. Eh bien, Satan voulait exactement faire ça avec Jésus. Il voulait modifier la conscience de son identité et de sa mission. Et il y avait de quoi ? Parce que Jésus a deux identités et il a deux missions. Alors, regardons voir l'identité. Jésus est fils de Dieu, on est d'accord ? Ok ? Il est fils de Dieu par nature, par essence. Il est Dieu, il est fils de Dieu, et il est venu révéler le Père. Donc, on a la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et Jésus est venu. Mais il a quitté, en venant, il a quitté cette position de fils de Dieu. Okay ? Il a dû recevoir le Saint-Esprit au baptême. Et ensuite, après, il y a eu cette période de tentation et son ministère jusqu'à la mort. Donc, à ce moment-là, il était fils de l'homme. Okay ? Il est devenu fils de l'homme. Et en tant que fils de l'homme, il n'avait plus les pouvoirs du fils de Dieu. Vous êtes d'accord ? Il a accepté l'identité de fils de l'homme, par amour pour nous. Parce que Dieu le Père lui a dit, j'ai une mission et je ne sais pas qui va l'accomplir. On voit dans l'Apocalypse qu'il n'y en a qu'un seul qui a pu répondre à cette mission, c'est Jésus. Donc Jésus, par amour pour nous, a accepté la mission et l'identité qu'il a reçue, c'est être fils de l'homme. Ce qu'on appelle le nouvel Adam. Dans les épîtres. Donc il est fils de l'homme. Et qu'est-ce que Satan fait dans le texte que vous venez de lire avec moi ? À qui s'adresse-t-il, Satan ? Fils de Dieu. Non, il dit fils de Dieu, mais lisez dans vos Bibles. Vous savez, il faut être scripturaire. Hein. Si vous commencez à inventer, vous n'êtes plus dans la parole. Hein. On est d'accord ? Si, tu es fils de Dieu. Non, vous voyez, si vous ne faites pas attention à la parole, hein, je vous préviens, hein, vous soyez des Béréens. Hein. Le moindre lettre, le moindre mot n'est pas choisi par hasard. Il signifie quelque chose. Et Satan lui dit, si tu es fils de Dieu. Or, il est fils de l'homme à ce moment-là. Voyez-vous ? Est-ce que vous percevez la différence ? La séduction. Si tu es fils de Dieu. Comme s'il ne l'était pas. Le problème, c'est que Jésus a choisi d'être fils de l'homme à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, il n'était plus fils de Dieu. Donc, il rappelle fils de Dieu et il va le tenter pour le faire chuter. Deuxième prise de conscience, enfin modification de conscience, c'est la mission. Quelle est la mission que Dieu le Père a assignée à Jésus en tant que fils de l'homme? Je vous écoute. Le salut des péchés. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la transgression de la loi, la parole. Okay, et tous, nous péchons. Comment est-ce qu'on peut satisfaire l'amour de Dieu et la justice de Dieu? Les deux doivent être satisfaits, l'amour et la justice. Comment est-ce qu'on peut satisfaire la justice de Dieu? En venant de sa présence comme des pécheurs? Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut aller dans le ciel? Enfin, dans le ciel, c'est pas forcément monter avec les anges. Hein. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Avec tous les péchés que nous connaissons aujourd'hui dans le ciel. Est-ce que quelqu'un a envie de ça? Ben non. Donc, il faut être saint. Ok? Il faut être séparé de ces choses, du mal. Or, pour être séparé de ces choses du mal, il faut que le péché soit enlevé. Et qui est le seul à pouvoir enlever le péché? C'est quelqu'un de saint, comme Jésus, qui porte ce péché et qui expie le péché, l'expiation. Donc, en tant que fils de l'homme, il a une mission, c'est celle-là. Ok? Mais tout le monde, et les Juifs en premier, c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu, ils lui ont attribué cette mission. Il voulait qu'il règne sur Israël. Il voulait qu'il jette les Romains dehors. C'est ça qui les intéressait, finalement. Alors qu'on se met à leur place. Les Allemands, quand ils étaient en France, personne n'avait envie qu'ils restent. Ils sont imposés par la force. Donc, on est toujours content d'avoir quelqu'un qui nous délivre d'un ennemi. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Donc, les Juifs, il faut se mettre à leur place. Ils attendaient un Messie. C'est l'attente du Messie. C'est ce qu'on appelle la question de l'eschatologie, c'est-à-dire voilà, de ce qui va arriver dans l'avenir. Ils attendaient un Messie, Messie promis. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas bien lu la Bible, comme vous, vous avez du mal, et comme moi, j'ai du mal à lire la Bible. Vous voyez, parce que souvent, on lit très vite et on ne voit pas les détails de la Bible. Il y a un Messie qui était promis, loin. Messie, c'est loin, le Christ. En grec, c'est Christ. C'est le mot Christ. Et en hébreu, c'est oin. Voilà. Messie. Et quel est le type de Messie qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament, qui allait venir? C'est ce qu'on appelle en théologie l'eschatologie. Hein, si vous avez jamais entendu parler de ça, c'est la question de ce qui va venir prophétiquement. Qu'est-ce qui était prophétisé dans l'Ancien Testament concernant le Messie? Pardon? Alors, il y a un Messie souffrant et... Pardon? Et un Messie glorieux. Il y a les deux qui sont dans l'Ancien Testament. Il y a un Messie souffrant qui a été... vous prenez Ésaïe 53 ou 57? 53, souffrant et un Messie glorieux. Ouais. Il y a les deux. Méfiez-vous, la Bible est écrite par Dieu, mais elle ne peut être comprise que par révélation. Jésus l'a dit à Pierre, il a dit, ce que tu dis là, Pierre, hein, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, c'est pas toi, c'est mon Père qui te l'a révélé. Il faut toujours avoir une révélation. C'est pour ça que les gens qui lisent la Bible sans recevoir le salut ne peuvent pas la comprendre. Ce n'est pas accessible à la raison humaine. C'est déraisonnable, déraisonnable. Il faut voir, parce qu'il faut comprendre la Bible dans l'esprit. Et les deux messies, Isaïe 53, c'est ça, et le Messie glorieux sont annoncés. Vous me suivez? Qui veut un Messie souffrant? Qui veut un Messie glorieux? Allez, soyez honnêtes. Ben voilà. Vous êtes comme les Juifs à l'époque. Ils voulaient un Messie glorieux. On veut un Messie glorieux. Alors? On ne veut pas de Messie souffrant. Sauf si on comprend le plan de Dieu. Eh oui, eh oui. Il faut d'abord passer par la souffrance et ensuite on peut être glorieux à cause du péché. C'est le problème du péché. C'est pas que Jésus n'est pas glorieux ou peut pas être glorieux, mais il a revêtu la condition d'homme pour accomplir cette mission, de manière qu'ensuite, après, montant au ciel, il puisse régner et être glorieux. Et glorieux sur tous ceux qui acceptent sa gloire. Et d'abord, la croix. C'est pour ça qu'un évangile, il y a plusieurs évangiles, hein, un évangile aujourd'hui, tant que Jésus ne sera pas revenu. Jésus est revenu pour certains, parce que on peut se poser des questions, hein, quand on regarde un peu le christianisme aujourd'hui, il y a de tout, hein, là-dedans. Okay. Donc vous êtes d'accord, Jésus n'est pas revenu. Heureusement pour vous, parce que vous n'auriez pas été enlevé. Donc Jésus n'est pas revenu. Donc s'il n'est pas revenu, il n'est pas encore glorieux dans sa messianité. Je ne parle pas de son identité. Son identité est toujours Dieu. Mais dans sa messianité, c'est-à-dire ce qui était annoncé, il n'est pas encore en pleine gloire sur les nations et sur le monde. Ok ? Donc nous sommes dans ce qu'on appelle cette économie, on appelle ça une économie du salut. Économie du salut. D'accord ? Ça, c'est l'économie de la gloire et du règne, qui est notre espérance. On ne sait pas quand, mais on sait que ça viendra. Amen. Ok. Donc, je reviens à la tentation. Satan va essayer de modifier la conscience que Jésus a de son identité qu'il vient de recevoir par le Père, Fils de l'homme, en délaissant toute sa gloire et toutes ses capacités de divinité pour devenir Fils de l'homme. Et comme nous, connaître les souffrances, la faim, la nudité, le problème, etc. Il peut comprendre le plus petit des plus petits sur la terre. Et Satan veut le faire passer de là à là. Et il veut le faire passer de là à là. Vous avez compris ? Enfin, vous comprenez si vous relisez la Bible. Aujourd'hui, enfin, au moment où Satan est en train de le tenter, Jésus a accepté d'être fils de l'homme et a accepté la mission qui est de sauver l'humanité en portant les péchés de l'humanité. Et Satan va essayer de jouer sur cette identité en lui disant « Si tu es fils de Dieu, eh bien, ta-ta-ta-ta-ta. Okay » Et il veut lui donner le règne tout de suite. Alors ? Voilà. Et le tour est joué. Si Jésus avait failli un instant sur son identité et sa mission, on ne pourrait pas être sauvé et on ne pourrait pas connaître la gloire. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut remercier Jésus, parce que sans cette détermination à garder son identité et sa mission, eh bien on ne serait pas là. Alors je vais poser une question. Je vais voir combien de personnes peuvent répondre. Pour moi, c'est un test de début d'année. Hein, je vais revenir après, voilà. Identité et mission, d'accord ? Est-ce que tu connais ton identité ? Hein, ton identité, tu places la main sur ton cœur. Voilà, placez la main sur votre cœur. Hein, voilà. Est-ce que tu connais ton identité ? Est-ce que tu connais ta mission ? C'est une question ? Je ne demande pas de répondre. Mais si vous ne la connaissez pas avec détermination, vous êtes déjà une proie facile pour l'ennemi. Vous comprenez ? Vous comprenez ça ? Moi, j'ai vu dans ma carrière qui commence à être un peu longue, en tant que pasteur, en tant que chrétien, je me suis converti en 68, hein, donc c'est vieux. Je dirais pas mon âge, mais voilà. eh bien, je vois que les gens qui ne connaissent pas leur identité de chrétiens, et leur mission, à un moment donné, ils partent ce qu'on appelle dans les décors. Hein, c'est-à-dire, voilà, ils seront certainement sauvés à la fin, hein, mais leur vie est un désastre, y compris sur le plan chrétien. Donc, connaissez votre identité et votre mission comme Jésus l'a connue et qui a pu résister, et qui à chaque fois a renvoyé Satan dans les décors. En disant, voilà mon identité, voilà ma mission. C'est le cas pour vous, c'est le cas pour notre Église. Si notre Église et vous qui êtes membre de cette Église, connaissez pas l'identité et la mission, eh bien, notre Église est en danger. Vous voyez ? Un corps. Alors, question, quels sont ceux qui peuvent me dire l'identité de l'Église, qui d'ailleurs est identifiée par la vision, et la mission ? Alors, allez-y. C'est quoi la vision de l'identité de l'Église, ici, EPEA ? Allô ? Pardon ? C'est un phare. Alors ça, c'est une généralité. Mais voilà, de manière concrète. Pardon ? La maison de Dieu, c'est vrai aussi. L'amour, ça c'est vrai aussi. Pardon ? Il y en a qui sentent le piège, là. Et oui, on est à début d'année, je rappelle la vision et la mission de l'Église. Bon. Ceci étant, on va faire bientôt des formations. Pardon ? Tout à fait, tout à fait. Mais bon, ça c'est un peu général. Alors, l'identité et la mission de l'Église, j'ai exprès fait, dans le passé, hein, j'ai beaucoup travaillé là, sur un acrostiche. Vous savez ce que c'est un acrostiche ? Vous mettez A, B, C, D, E, et puis voilà. Donc, c'est un moyen mnémotechnique. Hein. Donc, j'ai travaillé sur des acrostiches. Bon, quand vous forcez l'acrostiche, bon, il y a toujours un peu des... Mais bon, ça colle bien à la vision. Alors, il y a deux acrostiches. Pour la vision, c'est l'ABC. Et pour la mission, c'est très facile, c'est le PEA. OK ? Donc, vous voyez, je vous ai facilité la vie. Enfin, pour moi aussi, hein, parce que je n'ai pas de mémoire. Je suis plus scientifique, donc je retrouve les choses par la logique. Donc, voilà, je vous ai facilité la vie. Notre identité est constituée par... Si vous connaissez la vision de l'Église et la mission, voilà, vous êtes déjà dans le même ADN, parce que ça crée un ADN de l'Église. Alors, c'est quoi le A ? Accueillir quoi ? Le plan de Dieu. Voyez-vous, on est dans la croix. Accueillir le plan de Dieu. Jésus a accueilli le plan de Dieu. Il a connu son identité. B, c'est quoi ? Bénéficier de la sagesse de Dieu. Ah, il y a un bon élève, là. Heureusement, c'est mon bras droit, là. Ça me rassure. Bénéficier de la sagesse de Dieu, parce qu'il y a une autre sagesse. Alors, j'ai fait une petite vidéo, un petit clip, hein, avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Dan oui, Wang. Regardez, enfin, je vous la montrerai quand on fera la formation. Bénéficier de la sagesse de Dieu, parce qu'il y a une sagesse de Satan. Voilà, il y a deux sagesses. Bon, j'en vais pas plus loin. C'est quoi ? Pour être dans l'identité, c'est centrer sa vie, c'est sur Christ. C'est deux fois C, donc on peut pas vous tromper. Centrer sa vie sur Christ, c'est la croix. Centrer sa vie sur la croix. Si l'ensemble des membres de l'Église sont conscients de cette vision de leur identité, eh bien, l'Église peut être en paix. Amen, parce que nous avons tous la même vision de l'identité. La mission maintenant, le E c'est quoi ? Pardon ? Non, c'est celui-là. Celui-là, c'est établir des communautés d'hommes et de femmes qui sont libérés dans toute leur personnalité. C'est ça notre objectif. Et en tant que pasteur, nous on colle à cette mission. On veut que chacun d'entre vous, ça c'est notre rôle à nous, de veiller à ce que chacun d'entre vous, vous puissiez rentrer dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour vous. Dans le potentiel que Dieu a pour vous. Parce qu'on ne rentre jamais dans le potentiel si on n'est pas libéré. Voilà. Et on est tous, quelque part, un peu les pieds dans un truc, vous voyez, hein ? Alors, à cause de notre caractère, à cause des blessures, à cause de ceci, à cause de cela. Hello, hein? Vous voyez la différence quand vous êtes libre et que vous pouvez courir, faire du jogging ou le tennis, hein? Et quand on est malade, quand on est ceci, quand on est cela, on peut pas arriver au plein de potentiel, hein? Vous pouvez prendre un peu de la graine de gloire et victoire, et puis vous aider à comprendre ça. Eh bien, nous, il faut que nous soyons libérés. Et qu'est-ce qui permet d'être libéré dans l'Église? Le TQP, merci. Non mais, vous voyez, vous me prenez les mots de la bouche, là, c'est formidable ça. Hein ? Ben oui, c'est pour ça qu'on a adopté le torrent qui purifie, parce que c'est un moyen de vous aider à être libéré. Et vous pouvez passer dans le torrent autant de fois que vous voulez. Regardez Ézéchiel. Il passe dans le torrent, passe dans le torrent. Au début, vous êtes là, ensuite ça monte et après vous nagez. Ok ? Qui connaît Nathalie Gendron ? Moi, il y a quelque temps, il m'énervait. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Mais bon, vous savez, on s'énerve tous hein, parce que voilà, on n'est pas pareil, tout ça. Mais il m'énerve de moins en moins. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il passe régulièrement dans le torrent. Et c'est vrai, elle le reconnaît elle-même. Son caractère change, sa vie change. Vous voyez ? C'est fantastique, ça. Pour moi, je le vois. Hein. On passe plusieurs fois dans le torrent, les choses changent. Parce qu'on devient, on peut établir non seulement des personnes, mais des communautés d'hommes et de femmes libérés dans toute leur personnalité. Alors, paix, c'est quoi le paix ? La mission, notre mission, c'est établir paix, prier sans cesse. Prier sans cesse. Et c'est pour ça, cette année, on va construire, ces travaux ont déjà commencé, une maison de prière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais n'attendons pas qu'elle soit créée, prions déjà. Mais c'est une des priorités de l'Église, la mission de prier sans cesse pour toutes les nations. Et eux, et le petit a, évangéliser comme ambassadeurs du royaume. Vous voyez, c'est pas évangéliser à la mitraillette. Moi, je connais des chrétiens qui évangélisent à la mitraillette. Ouais, ouais, ouais. T'es sauvé. Lève la main, t'es sauvé. Voilà, tac, tac. Rien contre lever la main. Hein. Mais on ne bouscule pas les gens sous prétexte qu'on leur tire une décision par la force ou par la contrainte. C'est toujours dans l'amour. Okay. Donc, ambassadeur, c'est nous-mêmes être transformés pour que nous puissions donner envie aux autres, ok ? Mais je suis allé trop loin là parce que vous voyez, j'ai déjà effleuré la formation de membres. Pour montrer que l'identité et la mission, c'est la base de ce que nous pouvons résister à l'ennemi pour avoir la victoire. Alors revenons à Jésus. Comment lui a pu résister ? Comment il a été tenté ? Jésus reçoit la mission du Père d'accomplir le plan. Voyez-vous, le plan de Dieu, le plan de rédemption. C'est un plan extraordinaire. Et ce plan nécessite une parfaite obéissance. Parfaite obéissance au Père qui en a pris l'initiative. La moindre soumission à Satan compromettait ce plan, car il devait être l'agneau sans défaut, conforme aux exigences de la sainteté et de la justice de Dieu pour expier nos péchés. Alors, nous avons trois tentations. La première tentation, c'est de réaliser un miracle. Ok ? C'est de rentrer dans le surnaturel, pour le surnaturel, parce que Jésus transforme les pierres en pain pour manger, il n'en avait pas besoin, puisque les anges après sont venus et l'ont servi. Vous voyez ? Il y avait juste une fraction de temps où il devait résister. Parce que le Père avait prévu ça. Il a besoin de se préoccuper. Okay. Mais Satan a voulu anticiper le moment où Jésus allait se servir lui-même. Jésus, il a dit, je suis dépendant de la parole. Okay. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes amis, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Elle ne faillit jamais. Si vous vous laissez tenter trop rapidement, par quelque chose d'alléchant, qui n'est pas selon la parole, vous en payerez le prix. Bon, vous ne perdrez pas votre salut. Mais vous avez des conséquences, souvent douloureuses après, des conséquences. Donc la première chose, c'est de lui faire faire des miracles en dehors de la dépendance de Dieu. Pour lui montrer qu'il est capable, en tant que fils de Dieu, parce qu'il s'adresse à lui, fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, vous voyez ? Pour lui montrer qu'il est capable, qu'il n'a pas besoin du Père, il peut le faire tout seul. Alors ? Donc, le sortir de son identité et de sa mission. Deuxième temps, c'est de le tenter pour réaliser un miracle en public. Vous voyez ? Toujours sur les miracles, hein, public. Ici, c'est privé, hein, tout seul, devant ses pierres dans le désert. Là, c'est public. Il emmène sur le temple, qui était un des monuments les plus hauts de l'époque à Jérusalem, monté là-haut. La particularité du temple à ce moment-là, c'était quoi? Pourquoi il emmenait au temple, en dehors du fait que c'était très haut et que voilà, l'exploit était. Pardon? Pardon? Voilà, il y avait plein de monde en bas. Vous savez, il y a toujours la visibilité. Nous voulons toujours être vus. Hein, vous savez, faire un. Bon, c'est pas ce que vous cherchez, mais bon, quand on fait du tennis, c'est un exploit, il y a du monde, il y a les gens qui applaudissent et tout ça, voilà. Le faire tout seul, hein, c'est pas tout à fait pareil. Hein, l'exploit tout seul, bon, pourquoi pas? Hein, vous pouvez courir comme un malade et gagner la. Voilà, mais personne ne le sait, donc ça ne sera pas enregistré, etc. Voilà. Bon, ok, mais vous avez gagné, mais bon, tout seul, vous savez tout. Donc le public est important pour notre gloire. Ok? Alors? Et donc, pour. Quelle était la destination de cette tentation? Je sais que vous avez beaucoup d'imagination, comme tout Français qui se respecte, donc vous devez avoir des idées. Pardon? Non, mais par rapport au public, quel était l'objectif par rapport au public? Pardon? Alors peut-être que vous ne connaissez pas le terme de héros. Si hein? Alors, il faut se placer, vous voyez, la Bible est contextuelle, elle est écrite au temps des Grecs. Grec-romains, mais les Romains avaient la civilisation grecque. Et qu'est-ce que c'était qu'un héros grec? Voilà, c'était un demi-dieu. Pas complètement dieu, mais il descendait de la divinité. Le héros grec, voilà. Qu'est-ce qui connaît des héros grecs? Ben tiens, on a une personne qui connaît bien le grec. Hercule? Thésée. Thésée. Attention, c'est pas des dieux, hein, je parle pas de. Des demi-dieux. D'accord? Des demi-dieux. Ils descendent des dieux. Ok? Il y a. Bon, ben, relisez votre mythologie grecque, si vous voulez. Hein? Si vous voulez connaître les héros grecs, il y a Thésée. Je les avais notés, hein, parce que je ne suis pas non plus ferré en grec. Mais il y en a plusieurs. Hein, voilà. Bon, ben, on a l'habitude d'ailleurs de citer Hercule, Thésée, etc. L'objectif de Satan, c'était de le faire passer pour un demi-dieu, pour un héros. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que... Oui, parce que sauter de ce temple, bon, bah, tout le monde allait mourir, mais sauter et puis arriver en bas comme ça, tchou, voilà, à l'époque, il n'y avait pas les parapentes, mais invisible, parce que attention, les anges intervenaient, mais de manière invisible, donc voilà, ils descendaient comme ça. Waouh! Un dieu qui descend du ciel. Vous voyez, c'est ça qu'il voulait. Il voulait créer un événement majeur qui fasse passer Jésus pour un demi-dieu. Pourquoi? Parce qu'il l'aurait tout de suite adoré, Jésus. Est-ce que Jésus acceptait que les gens l'adorent? Très souvent, il s'en allait vite fait, il faisait un miracle, il s'en allait, ne dites rien. Parce que sa mission n'était pas la gloire, sa mission c'était la souffrance. Vous voyez, il était toujours conscient de son identité et de sa mission. Troisièmement, Satan va lui tenter pour lui donner la gloire politique. La gloire politique avant son temps. Gouverner les nations, régner sur les nations, diriger les nations, c'est ça qu'il voulait avant son temps, pour régner directement sur les hommes. En transgressant l'étape de la croix. C'est tout ce qu'il voulait. Si vous êtes dans un évangile, dans une église ou un évangile qui ne prêche pas la croix, sortez tout de suite avec les jambes à votre cou parce que vous êtes en danger de mort. Ok? Tant que Jésus n'est pas revenu, c'est la croix et la croix. Allô? Vous me suivez? Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ce que je dis, mais je le dis avec beaucoup d'emphase et de sérénité. Aujourd'hui, il y a une séduction qui veut échapper à la croix, comme à l'époque, Satan voulait que Jésus échappe à la croix. Il voulait lui préserver cette souffrance. Oh, il était gentil, Satan. Oh là là, il est vachement gentil. Hein. Ah, il prend soin de Jésus. Ah oui, oui. Bah oui, il a un autre plan. Il a un plan B, lui. Ok? Ben oui. Le problème, c'est que nous, on passait la trappe. le plan B, il aurait pu avoir, il est dans la gloire, ok. Mais nous, on aurait été lésés par ce plan. Donc, Satan veut lui faire passer les étapes et passer à la deuxième étape ici, qui est son retour, qui viendra, mais ce n'est pas encore le cas. Ok. Alors, pour moi, le Seigneur m'a montré un modèle qui me permet de discerner. J'aime bien le discernement. Il y en a qui aiment bien discerner le bien du mal, qui aiment bien discerner le faux du vrai, qui aiment bien discerner s'ils sont dans la panade ou pas. Bon, bah moi je suis de ceux-là. Donc, le Seigneur m'a montré qu'à partir de là, il y a trois choses qui sont importantes pour nous et pour moi. La première, la deuxième et la troisième. Voilà. La première, c'est de nous garder, de me garder, de me servir moi-même. Parce que Satan, il a un motto, il dit si personne te sert, sers-toi toi-même. Voilà, tu es le mieux servi, c'est par toi-même. Ok ? Vous savez où c'est écrit ça, sers-toi toi-même ? Ça a été écrit il n'y a pas très longtemps. On a 2000 ans d'histoire, mais il n'y a pas très longtemps, il y a un fameux personnage que Churchill, c'est autant Churchill, nommait le personnage le plus ignoble que l'Angleterre a jamais connu. Vous savez qui c'est ? C'est Alexandre Crowley. Alexandre Crowley, il a écrit la Bible satanique. Et le premier commandement de la Bible satanique, c'est « Sers-toi toi-même ». Moi, j'étais étonné. La première fois, je dis « C'est sers Satan ». Non, non, non. Sers-toi toi-même. Vous voyez, la stratégie ne change pas. Hein. Donc, quand vous êtes poussé à vous servir vous-même, non. Jésus dit « Si vous allez quelque part, mettez-vous à la dernière place. Et si quelqu'un vous met à la première, eh bien, vous êtes béni. Mais mettez, vous voyez, première place, première place, première place. » Les disciples ont dit à Jésus « Mais Jésus, quand tu seras dans le ciel, je peux être à ta droite et à ta gauche ?» On est tous pareils. On cherche les places d'honneur. Mais cherchez les places de simplicité. Jésus a accepté d'être le plus vil, d'être traité par la croix jusqu'au plus vil. Et Jésus, là, élevé à la plus haute place. Non, Dieu. Dieu l'a élevé. Attendez que Dieu vous élève. Ok ? Donc, sers-toi toi-même. Danger. Ici, c'est... Tu vas être un héros. Hein ? Tu vas être un héros. Hein ? Eh ben, faites attention que vous ne soyez pas un zéro. Hein. Parce que à vouloir être un héros, eh bien vous pouvez tomber de très haut et plus que du temple. Hein. Donc, restons dans l'humilité. Et là, c'est le plan de Dieu. Hein. Cherchons le plan de Dieu pour nos vies et restons dans ce plan. Là, c'est l'axe de l'histoire. Hein. L'histoire, elle a un sens. Le Seigneur a pour chacun d'entre vous une histoire qu'il connaît d'avance. Il vous a connu avant le ventre de votre mère et il va vous diriger. Attendez que le Seigneur vous place dans son histoire. Amen. Et là, vous serez bien. Et n'anticipez pas l'histoire sous prétexte que il y a un prophète qui vous a parlé. Méfiez-vous des prophètes. Ils se trompent toujours dans le temps. Parfois, ils voient bien. Les meilleurs qui voient assez net, mais ils se trompent toujours dans le temps, parce que le temps n'appartient pas aux hommes. Il appartient à Dieu. Amen. Jésus, pour parler de l'histoire de la rédemption, il y a une histoire, ok ? Et, voyez-vous, accrochez-vous à la théologie qui est solide, et pas de la théologie du moment, qui vous promet monts et merveilles, prospérité, etc. Accrochez-vous à de la solide théologie. Il n'y a que deux, ma connaissance, deux solides théologies dans le temps. C'est la théologie de Calvin, qui s'appelle l'institution chrétienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tome assez épais, qui au moment de la réforme, hein, après l'Église catholique est passée à la contre-réforme et a écrit aussi, parce qu'il n'y avait rien d'écrit, hein, Concile de Trente a tout écrit. Mais Théogile de Calvin établit bien les soli, les cinq soli, ou sola, voilà, sola gratia, sola Christus, sola, etc. Ça c'est solide. Plus récemment, il y a un autre théologien, c'est George Eldon Ladd, voilà, qui a parlé du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il a réactualisé la notion de royaume qui est venue un peu au XXe siècle. Et j'ai beaucoup aimé John Wimber qui était dans les dons et les charismes, il s'appuyait là-dessus. Mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont plus dans la théologie, ils sont dans l'expérience, je ressens, je sens, je vois, etc., des choses surnaturelles, ou je pense, ou je prophétise, etc. Et là, on est complètement parti dans les décors. Okay, même le pape récemment, c'est privé, donc ils ont essayé d'étouffer tout ça, parce qu'il avait une délégation de 700 personnes de l'Amérique du Sud, et ils lui ont demandé au pape François quels sont les dangers. Eh bien, il a nommé les dangers, ces deux dangers-là. Oui. Il est tout à fait conscient, hein, des dangers dans l'Église catholique. Hein. Il a dit, le premier danger, si, c'est le gnosticisme. Alors, gnosticisme, ça vient du grec gnose, ça veut dire connaissance. C'est une connaissance secrète, orale, qu'on transmet comme ça, de bouche à bouche, qui explique un peu mieux que ce que dit la Bible, de manière secrète, voilà, donc on vous donne, il a dit c'est l'élitisme, parce que c'est quelques personnes qui savent ça, c'est des, voilà. Donc le gnosticisme, c'est l'aboutissement de se serre toi toi-même, c'est-à-dire que voilà, vous savez pas, mais moi je sais, ok. Et le deuxième danger ici, c'est le pélagianisme, c'est Pélage. Pélage, c'est un personnage qui vivait 18e siècle peut-être, et qui a été nommé hérétique par l'Église catholique, et qui méprisait la grâce. Hein, c'est-à-dire que par la vertu, par la force, par la capacité voilà, d'être vertueux, de faire les œuvres de Dieu, tout ça, il était chrétien, hein, plus que chrétien, mais voilà. De l'autre côté, vous voyez ? Donc par la force, c'est comme une sorte de héros, quoi. J'arrive à être chrétien par mes capacités personnelles. Voilà, vous êtes ici. Okay. Et là, dans ce plan-là, eh bien, il y a d'abord la croix qui est venue il y a 2000 ans. Et même si nous sommes dans le futur, nous regardons tous à la croix. Parce que la croix est intemporelle. Dans le plan de Dieu, la croix a été dressée. Et il y a le retour. C'est vrai que nous attendons tous le retour de Jésus. Okay. Et le retour de Jésus, ce sera le jugement. Le jugement. Et la fin de nos souffrances. Okay. Mais ça, on n'y est pas encore. On y est avant. Donc restons dans ce temps. Dans ce temps et appuyez sur... Alors, cette théologie-là, qu'est-ce qu'elle dit en particulier ? Elle dit que le royaume de Dieu est le déjà, pas encore. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de théologies dans le monde qui ne suivent pas ces théologies. Ils disent le déjà. Hein ? Il n'y a pas grand-chose qui change. Hein ? Il est déjà là. Ben, c'est une erreur complète. C'est ça qui nous emmène dans les décors. Ça a l'air de rien, hein, mais c'est totalement différent. Le déjà pas encore, c'est que ben, on est dans la souffrance. Et quelqu'un souffre, souffre avec lui. Si quelqu'un est malade, eh bien, tu pries pour lui. Vous voyez, on est encore dans cette période de souffrance, de difficulté, de problème, etc. Dieu intervient, il agit. De temps en temps, il fait des miracles spectaculaires. Des fois, ils le sont moins, mais peu importe, Dieu agit. Mais nous sommes dépendants de lui et de sa grâce. Okay ? Un jour, il n'y aura plus rien. Ici, il n'y aura plus de pleurs, ni quoi que ce soit, ni de larmes. Satan sera enchaîné et tout ça. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans le déjà, pas encore. Donc, ce sont des théologies qui nous permettent de nous raccrocher à des enseignements pernicieux et nous garder de toute déviance. Amen. Voilà, je m'arrêtais là parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager par la suite. Donc ici, on est dans une foi objective, pas subjective. Une foi objective sur la parole. Si notre foi n'est pas basée sur la parole, c'est une foi qui nous emmène dans les décors et loin de la croix. Ici, c'est notre raison, oui. Il faut utiliser la raison. Le Seigneur nous a donné un sens critique déjà dans l'Éden. Il a dit, je me place ici l'arbre du bien et du mal, choisi. C'est ça la raison. C'est de faire le bon choix. Donc, il faut une raison pratique. On appelle ça la raison pratique, qui est servante de la foi. Et là, restons sur la croix seule, dans nos vies, dans nos églises, pour que nous puissions exercer. Qu'est-ce que c'est là? Un des phénomènes qui montre qu'on est basé sur la croix, c'est quand on accepte la repentance. Si vous entendez à droite ou à gauche qu'on éclipse la repentance, sachez que vous êtes dans un faux évangile. Ok? Je vous le dis pour que vous soyez gardés. Vous êtes dans un faux évangile. Seule la repentance aujourd'hui peut nous sauver de la catastrophe. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons parce que, Seigneur, tu as accompli ce plan merveilleux à la croix et tu ne t'es pas laissé tenter ou tout au moins succomber par la tentation par l'ennemi parce que tu connaissais ton identité et ta mission. Aide-nous, Seigneur, à connaître la nôtre pour que nous puissions être gardés de tout dérapage spirituel et, Seigneur, par la suite, de tout le reste qui est entraîné. Nous voulons compter sur toi, sur le secours de ton esprit pour nous garder, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui es l'auteur et le finisseur de notre foi et nous te bénissons pour cela dans le nom de Jésus. Amen.